Vous avez fini par arriver dans nos studios et on vous en remercie bien évidemment. Alors peut-être nous parler de ce temps de l'Avent, quelques mots sur le temps de l'Avent, Frédéric. C'est vrai qu'en termes musical et liturgique, c'est un moment très important pour l'Église.
Oui, alors c'est à la fois un petit carême à l'origine, l'Avent. Donc il y a un dépouillement, il y a une notion de revenir à l'idée de revenir à l'essentiel.
C'est votre côté orthodoxe, hein, cela.
Ah bon, vous trouvez que j'ai un côté orthodoxe? Peut-être, je ne sais pas, je ne le suis pas en tout cas de tradition, mais effectivement j'ai une sensibilité parfois orthodoxe. Il y a un dépouillement et pour revenir à l'essentiel, et en même temps l'idée aussi de retrouver des mélodies simples, d'où l'utilisation souvent de mélodies populaires qui vont jouer un grand rôle dans la liturgie de Noël, justement. On pense à Charpentier, Messe de minuit, etc. C'est pas un hasard, je pense. Et c'est le retour à l'enfance, mais le retour au sens de la simplicité de l'enfance.
Et c'est un répertoire qui vous plaît, d'ailleurs? Parce que vous, votre répertoire, on va en parler, c'est le répertoire
médiéval. Oui, j'aime beaucoup, par exemple, le baroque français. Mais c'est vrai que j'ai une appétence. Enfin, je me sens beaucoup plus proche du chant médiéval, justement, de par son dépouillement. Et puis parce qu'il redonne une place au verbe qui est central. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment poussé à me spécialiser dans le chant médiéval.
Est-ce que dans la liturgie de l'Avent, d'ailleurs jusqu'à Noël, il y a aujourd'hui des paroisses ou des lieux, du moins, où l'on peut entendre ce répertoire médiéval?
Alors ça, je ne sais plus, parce que je ne travaille plus au sein même de l'Église catholique. J'ai été pendant de nombreuses années chantre, mais donc je ne saurais dire, mais je sais bien sûr qu'il y a des endroits, je crois, enfin Notre-Dame, de toute façon, je pense que c'est quand même l'endroit. Alors, c'est plus à Notre-Dame actuellement, je pense que c'est à Saint-Jean-l'Auxerrois, c'est ça actuellement. Donc, je pense que si on veut entendre du grégorien encore dans les églises, dans le cadre de la liturgie, mais après, je crois que Saint-Eugène, Sainte-Cécile, etc. Mais je ne suis plus très, très au fait de ces questions.
Vous êtes en périphérie de l'église, Frédéric Rancière.
Oui, j'ai aussi un marginal.
Un anachorète, un père de désert.
Voilà, on ne sait pas trop ce que je suis. Je ne cherche pas à définir.
Alors, Vox Decello, c'est le nouveau CD que vous proposez, qui va sortir dans quelques jours, quelques semaines.
Oui, qui va ressortir donc le samedi 21 décembre, qui sortira lors du concert de sortie qui aura lieu à l'église de Saint-Marcellin, à côté de Saint-Antoine-l'Abbaye, où ont été enregistrés pendant 3 nuits tous ces chants. Et donc, qui sont en fait des chants de dévotion des chanoines antonins. Donc, c'était des chanoines qui guérissaient le mal des ardents. Je crois que j'étais déjà venu une fois en parler ici. Et donc, tout le travail depuis plusieurs années, mes travail de recherche, c'est justement de faire revivre ces chants, de les ressortir de l'ombre et de leur donner toute leur vitalité. Et c'est ce qui est en train de se produire avec grâce à ce CD et grâce au concert de sortie, donc le 21 décembre à 20h à Saint-Marcellin. Et là, je voudrais vous faire partager en fait cet univers, vous faire rentrer dans la force de ces chants.
Alors c'est vrai que ces chants ne sont pas forcément des chants qu'on a l'habitude d'entendre, notamment en ce temps de l'Avent, mais ça nous permet aussi d'écarter, du moins d'élargir notre spectre, notre répertoire musical en ce temps de l'Avent, d'ascension de fait vers la nativité. Et peut-être que vous allez nous proposer plusieurs extraits, on va les écouter. Le premier extrait, de quoi s'agit-il, Frédéric ?
Alors, le premier extrait, alors il y a 3 thèmes que j'ai voulu illustrer. D'abord le thème de Saint-Antoine en gloire, on dit toujours quand le Saint est en gloire, c'est en fait sa montée au ciel, hein, comme le Christ en gloire. Donc saint Antoine était extrêmement vénéré, il était parfois considéré comme un alter Christus, c'est-à-dire un second Jésus-Christ, et donc on le représentait en gloire. Et donc là, le chant que vous allez entendre, justement, c'est la description justement du trône céleste vers lequel Antoine s'élève, et que c'est très lumineux, c'est une espèce de chant de spirale qui nous attire vers le ciel. Et je trouve que c'est quelque chose à notre époque, on en a bien besoin, justement.
Alors on l'écoute tout de suite.
Et si Dieu
Cœur d'homme, voilà. Donc c'était des chanoines, c'était un ordre masculin, hein, essentiellement. Et donc là, ils sont en train d'exalter en fait le trône de gloire en fait de Saint Antoine l'Égyptien, le vrai, l'originel, si je puis dire.
Il y a plusieurs Saint Antoine.
Oui, Saint Antoine de Padoue, par exemple, qui n'a rien à voir. Même s'il est plus connu aujourd'hui, voilà. Et donc effectivement, Saint Antoine l'Égyptien est vénéré par les orthodoxes, est vénéré par l'Église d'Orient. C'est pas le véritable père dans le sens où comme Paul de Thèbes l'a été, son probablement d'ailleurs ce qui a été son maître spirituel. Mais en tout cas, Antoine est vraiment vénéré. Ses reliques qui sont à Saint Antoine de l'Abbaye sont vénérées. Donc là, c'est sa montée au ciel, c'est son envol spirituel et c'est sa gloire en fait dans la communion des saints.
Qu'on peut voir d'ailleurs dans la tonalité, par exemple, de ce chant là qu'on écoute.
Oui, alors ce sont les volutes, les mouvements, ce qu'on appelle les mélismes, qui cessent de tourner et qui expriment le chant des anges autour du trône, en fait.
Peut-être qu'on peut l'écouter un peu plus fort pendant quelques instants. C'est vrai qu'on sent cette espèce de tourbillon qui nous emporte.
Voilà, c'est la dimension extatique du chant. On a tendance, aujourd'hui, on ne la comprend plus. Mais en fait, il faut bien comprendre la représentation qu'on a dans l'âme, dans l'esprit, au moment où on chante. Hein. Le chant n'est que l'esprit de ce qu'on a à l'intérieur de nous.
Alors c'est vrai qu'on écoute là en exclusivité sur Radio Notre-Dame les premiers extraits de cet album, oui. Vox d'Eccello. Et d'ailleurs c'est vrai que c'est assez étonnant, mais même si le grégorien n'est pas très popularisé en tout cas dans la liturgie actuelle, malgré tout, et parmi les auditeurs, de nombreux amateurs de grégorien persistent. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de drôle de paradoxe, oui. De fait, on en a déjà parlé d'ailleurs entre nous, Frédéric, entre la réalité effective du grégorien dans la liturgie aujourd'hui officielle et en même temps de l'attrait de ce grégorien qui nous emporte ailleurs, qui nous emporte un petit peu au ciel.
Oui, cette ambiguïté ne m'étonne guère. D'un côté, on a la réalité pastorale qui, elle, va privilégier le dialogue en fait entre le peuple et le clergé et qui, malheureusement, ne laisse pas trop de place à ce que j'appelle moi l'écoute conceptive, c'est-à-dire le fait que la foi, c'est d'abord se laisser pénétrer par le Verbe, justement. Et puis, cet appel du Verbe, cet appel de justement le thème du CD Vox Eccello, une voix du ciel, hein, repris de la vie de Saint Athanase. La voix du ciel, c'est justement ça dont il est question dans le chant grégorien. C'est-à-dire c'est cette voix qui n'est pas humaine, justement, qui ne vient pas d'une voix humaine, mais qui retentit par le biais artistique, par le biais iconographique, par le biais du chant, par le biais de l'ornement liturgique et de sa splendeur. Et c'est ça le Moyen-Âge, et c'est ça, je pense, je dirais même sur un plan cellulaire qui se réveille chez nous, parce qu'on a cette mémoire et parce qu'on a été nourris, nos ancêtres ont été nourris par ça, et on n'est pas prêt en réalité à abandonner ça. Et je pense que là il y a une déchirure justement entre d'un côté des réalités ou dialogales où on veut absolument trop humaniser, je dirais, trop horizontaliser la liturgie, alors que la liturgie c'est d'abord un souffle qui vient du ciel. Bon, et là donc dans ce CD, le titre vraiment syncrétise l'esprit de cet enregistrement. C'est-à-dire que c'est un souffle qui se matérialise, mais c'est un souffle qui est divin. Et c'est comme ça que ça a été conçu par justement les chanoines antonins, mais par tous les ordres qui composaient des chants et les pratiquaient.
Alors c'est ça qui est magnifique justement dans ce répertoire médiéval ou oriental en quelque sorte, et oriental.
Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas la fracture orientale et occidentale dans cet état d'esprit qu'on a aujourd'hui nous.
Complètement.
Vous voyez, c'est ça, on a une mauvaise grille quand on...
Et vous êtes en quelque sorte, vous faites le pont, Frédéric.
Dès l'instant qu'on redescend dans le passé, on fait le pont. En fait, on se libère d'une séparation Orient-Occident qui est totalement inventée, tardive.
Et puis il y a cette idée aussi d'initiation, c'est-à-dire que pour pouvoir interpréter ce genre de chant, c'est vrai que cela demande tout de même un travail réel.
C'est pas un petit chant polyphonique sorti
de la guinguette, quoi.
De la guinguette, j'aime bien le coup de la guinguette. La guinguette à côté du presbytère, du bénitier. Effectivement, ce n'est pas une question de... Voilà. En fait, c'est surtout que c'est une ascèse. En fait, l'art au Moyen-Âge est une ascèse. Et on a séparé les deux. Aujourd'hui, l'art est devenu une voie de divertissement, ce qui n'est pas sa véritable vocation. Mais effectivement, quand on revient au chant grégorien, quand on revient au plein chant antonin, quand on revient, on va avoir, là, je vous ai proposé justement d'écouter une version polyphonique de ce plein chant, par exemple, par Guillaume Dufay, on va voir que c'est une question, c'est une ascèse, et on pousse à l'extrême les possibilités vocales, d'écoute, etc.
On écoute ce deuxième extrait.
«
ce côté Frédéric Rentière tourbillonnaire un petit peu quand on entend voilà. Ces chants.
C'est-à-dire ce souffle. En fait, la parole humaine, elle est limitée. C'est une espèce de vase fermé. Or que la parole divine, c'est un vase, mais enfin, nous on en fait un vase, mais ce vase doit rester ouvert. Alors il y a cette idée, cette image toujours, effectivement, de quelque chose qui tourne autour d'un axe. Le chant médiéval, il est construit sur cette idée que le chant de l'homme n'est qu'une louange qui, elle, ne fait que magnifier une parure du divin, finalement. Donc là, par exemple, Dufay, l'interprétation qu'il en fait, c'est une merveille, parce qu'en fait, il ne fait que exalter encore plus la teneur déjà extrêmement extatique du plein chant.
On écoute encore un petit extrait de ce beau chant. Toujours très beau. Et puis c'est vrai, Frédéric, que quand on écoute ces chants, on imagine aussi votre émotion quand vous-même vous découvrez ou redécouvrez telle partition qui parfois n'a pas été jouée ou n'a pas été chantée, en tout cas, entonnée depuis peut-être des années, des décennies, des siècles.
Voilà, alors c'était le cas justement pour tous les chants antonins, puisque l'ordre a été dissous en 1777. Et des chants que j'ai pu retrouver, certains remontent du 15e siècle, peut-être certains du 13e, fin 13e. Et c'est très émouvant de se dire qu'ils ont été portés, que les gens qui le chantaient, ils croyaient réellement, ils invoquaient les vertus de saint Antoine. Notamment, là, on va voir un chant pour la guérison du mal des ardents, donc fameux ergotisme, cette souffrance atroce que vivaient ces gens qui étaient contaminés par l'ergot de seigle et qui affluaient dans les hôpitaux pour justement, ils devaient se faire carrément couper un membre, etc. On leur donnait des baumes, et on chantait pour eux, et donc il y avait toute une alliance.
Des chants de guérison, en quelque sorte ?
Oui, c'était des chants de guérison. C'est-à-dire, en fait, il y a toute une alliance entre la liturgie, le pouvoir d'intercession d'Antoine l'Égyptien, donc qui était présent, le patron de l'ordre, présent spirituellement, qui veille sur l'ordre, et tous les soins, toute la pharmacopée, donc l'utilisation des plantes, justement, dont on a une représentation dans le retable d'Issenheim au musée Unterlinden à Colmar. La rencontre entre Paul de Thèbes et Antoine l'Égyptien.
Avec Grunewald aussi qui est présent.
Voilà, donc c'est Grunewald justement là. J'évoque bien effectivement le retable, la partie gauche du cœur du retable. Et c'est ces 14 plantes justement qui étaient utilisées pour le Saint-Vinage.
Alors Frédéric, avant d'écouter ce troisième extrait, revenir à Noël quelques instants. Est-ce que ce CD Vox de Cello est une bonne idée de cadeau de Noël ?
Bien sûr. Pourquoi c'est une bonne idée ? Parce qu'il s'agit bien justement d'une voix qu'on est capable de réentendre, d'une voix différente qu'on est capable de réentendre. Pas la voix justement de ce qu'on veut entendre, mais quelque chose qui peut nous surprendre justement. Et par exemple, dans ce CD, il y a tout un travail bien sûr historique. Alors les historiens, là justement, pourront avoir pas mal d'éléments, de clés pour comprendre comme la manière dont j'ai pisté finalement ces documents et essayé de reconstituer une histoire du chant antonin. Mais aussi pour les gens, par exemple, qui sont beaucoup plus dans la recherche justement d'une ouverture, ils vont pouvoir aussi rentrer dans un univers où tout est lié, où l'âme, le corps, l'esprit, la guérison, la maladie, la prière, tout ça est lié. Et ça, je pense que ça peut être un beau cadeau pour Noël, parce que Noël, c'est justement le cadeau, vous savez, l'étymologie du mot cadeau.
Cadeau.
Il y en a plusieurs étymologies, mais celle que je préfère la plus belle, c'est la petite chaîne, en fait.
Ah oui,
la petite catène. Et ça, c'est beau, c'est-à-dire c'est pour recréer un lien. Le cadeau, c'est le moment où on rétablit des liens. C'est pour ça qu'on a besoin de se retrouver en famille, qu'on a besoin de recréer un lien, ressentir un lien. Mais là, il s'agit d'un lien avec Dieu, en réalité,
encore plus fort,
quand on est chrétien, en tout cas. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et par rapport à là, justement, dire que le patrimoine, notre histoire, nos ancêtres, tout ça nous contribue justement à nous réouvrir, à recréer ce lien. Il n'y a pas un passé, et puis il n'y a pas une modernité, etc. Tout ça, c'est des légendes qu'on se raconte.
Alors, où est-ce qu'on peut le trouver, justement, ce beau CD Vox de Cello, qui est vraiment inédit en la matière ?
Voilà, alors bien sûr, ceux qui pourront venir à Saint-Marcellin, mais c'est en Isère, donc les gens qui sont en région parisienne, ce serait peut-être plus difficile. À 20h, ils peuvent aller assister au concert.
Le 21 décembre.
Le 21 décembre, à l'église Saint-Marcellin, ils peuvent se procurer le CD, mais ils peuvent se le procurer en allant sur le site de l'Association française des Amis des Antonins, ou sur le site de Vox Inrama, et donc tout de suite, ils tombent sur les indications pour commander le CD.
Donc voilà, allez sur Internet, tapez Vox de Cello. Cello, tout simplement. J'imagine voilà, que vous tomberez cello, sur
Voxinrama.
Voxinrama, voilà. Voilà. Vous tomberez sur ce beau CD, belle idée de cadeau de Noël. Alors continuons notre plongée dans cet univers, dans ce répertoire des Antonins, peut-être avec ce troisième extrait, mon cher Frédéric.
Voilà, donc là il s'agit d'un texte très fort qui était probablement prononcé sur le malade quand il rentrait en fait en cure. Je lis le texte rapidement. Antoine, illustre pasteur, toi qui rétablis les tourmentés, guéris et détruis les maladies, éteins la chaleur du feu, donc il s'agit bien du feu qui brûlait le corps. Ô Saint-Père, prie le Seigneur pour nous, les malheureux, afin que nous soyons faits dignes, ô très Saint-Père, des promesses du Christ. Donc cette promesse, ce texte chanté était prononcé aussi par un prêtre.
On l'écoute. On me dit, Frédéric, juste que ça ressemble à... Non, ça c'est... on aime votre voix de miel. Mais que ça ressemble un petit peu à un appel à la prière orientale.
Pourquoi ? Qu'est-ce que vous pensez à ça ? C'est le côté orné, c'est ça ?
Peut-être.
Il faut absolument que les catholiques d'urgence réintègrent l'ornement, la beauté de l'ornement. Qu'est-ce que c'est que cette idée puritaine qu'il ne faut pas d'ornement, qu'on est... Non, mais c'est vraiment dommage. Et alors là, ce qui est... En plus, ils se privent d'un bonheur, on pourrait dire, quelque chose de très spirituel et qui est extraordinaire et que connaissent bien justement les chrétiens orientaux. Là justement, donc, c'est le chant probablement que les Antonins chantaient au 14e, 15e siècle pour la guérison des malades. C'est quand même très émouvant de rétablir une chaîne, justement, un beau cadeau pour Noël, une belle catène de mémoire.
C'est vrai que c'est magnifique. Hein. On va écouter encore quelques notes de ce beau chant. Complètement dans le désert de Judée, cette histoire. C'est le but un petit peu d'ailleurs de ce chant, c'est ce que vous évoquiez, c'est qu'il y a une portée spirituelle profonde à un chant. Ça doit nous élever vers Dieu, ça doit nous faire revivre en quelque sorte le mystère de notre foi aussi.
Ben c'est ça, de toute façon, la foi c'est aussi c'est la confiance, mais c'est aussi la loyauté, hein, c'est aussi finalement se remettre en lien avec quelque chose, enfin des fondements, quelque chose en tout cas qui nous fonde. Et c'est vrai que dans ces chants, il y a quelque chose à la fois qui est au niveau du texte qui est fort, mais aussi quelque chose qui nous élève et qui nous réouvre nos écoutilles aussi. Donc c'est ça l'idée, c'est à la fois la joie d'exprimer une joie, mais d'être en même temps totalement le réceptacle de cette joie. Mais ça, je pense que c'est la dimension mystique finalement que je suis en train de dire.
C'est la dimension du temps de l'Avent aussi que l'on vit.
Oui, dans l'ensemble de l'avènement, parce que c'est ça qui est beau dans l'Avent, c'est qu'on se tend vers le Messie, mais que le Messie vient à nous. Et ça, c'est l'expérience de la messianité, justement, le fait qu'on est porteur de cette messianité, que c'est pas nous qui nous tendons uniquement, mais lui vient vers, et on est finalement, c'est dans tout ce qu'on fait que cette messianité s'accomplit.
Alors continuons notre écoute de ce nouveau CD Vox Decello. Voilà, c'est une bonne idée de cadeau de Noël qui a du sens, en l'occurrence, ce cadeau, cette catène, cette petite chaîne qui nous relie à Dieu. Vox Decello, donc produit par l'ensemble Voxinrama et par vous-même.
Voilà, et l'association Cantère. Française des Amis des Antonins, en fait, qui a porté le projet grâce à laquelle on peut sortir.
L'AFAA,
oui, l'association française des Amis des Antonins. Oui.
Alors, quatrième extrait, Frédéric.
Voilà, donc c'est la même version de l'Alléluia, mais mis en musique par Villaer.
On l'écoute.
Thank you.
dans ce chant. C'est peut-être
oui, parce qu'il est question de libération, en fait. Ouais, c'est la thématique du feu, en fait. Ce qui est très intéressant dans la thématique du feu divin, c'est que pourquoi est-ce qu'on invoque Antoine l'Égyptien ? C'est parce que au moment où il a vaincu les tentations, on va entendre un chant justement sur les tentations. Alors tout le monde connaît un peu les tentations parce que c'est le démon qui vient essayer de nous désarçonner, éprouver notre foi et voir s'il peut nous faire trébucher, etc.
Vous êtes tenté, Frédéric ?
Ah oui, bien sûr, quotidiennement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement, c'est ce passage, cette épreuve, hein, justement dans le Notre Père, on a été donc fait que nous ne succombions pas à la tentation, etc. Toutes ces traductions qu'on trouve, elles sont au cœur justement de l'expérience justement chrétienne. Et c'est justement Antoine, en quoi il est vainqueur ? C'est parce que c'est le feu divin qui va prendre le dessus sur le feu des démons. Bon, et donc on a ce renversement, et c'est ce qui explique la joie justement de ce chant. C'est-à-dire que c'est le triomphe du feu divin sur le feu démoniaque.
On en écoute encore quelques notes. C'est vrai que quand on écoute ces notes, ou même ce répertoire, Frédéric Rentier, on se dit qu'au niveau de la gorge, des vocales, oui, il faut quand même une aptitude toute particulière pour pouvoir interpréter ce style. Alors, de
il faut travailler, il faut effectivement avoir un bagage musical. Là, on est dans un répertoire quand même qui demande une maîtrise technique, mais qui aussi, à un moment donné, demande de retrouver la simplicité. C'est pas parce que c'est technique que c'est compliqué, en réalité. Le rendu, lui, doit paraître le plus simple possible.
Non, c'est vrai que c'est toute la belle ambiguïté, d'ailleurs, de ce répertoire médiéval, entre cette simplicité, cette technicité. Oui. C'est un beau rapport. Alors, peut-être le dernier extrait que vous nous proposez de ce CD Vox Decello pour nos auditeurs. Il nous reste deux petites minutes, Frédéric.
Alors là, donc, c'est la thématique des tentations, justement, et donc cette parole que prononce Antoine quand il est assailli par les démons dans une caverne, une grotte ou un ermitage, on ne sait pas trop dans toutes les représentations qu'on a, où il dit « Nul ne me séparera de l'agapé du Christ, de l'amour divin du Christ. » C'est cette parole qui fait que d'un seul coup, il renverse les démons.
On l'écoute.
Texte. Oraba Dei Famulus, le serviteur de Dieu Antoine priait parmi les multiples tentations des démons. Donc là, on a un tableau, on se revoit justement dans Grunewald, oui, dans le Retablissenheim. Et donc là, on écoute un peu. Donc la fameuse parole en latin « Nullus me separabit a caritate Christi, nul ne me séparera de l'agapé du Christ ». Et donc la victoire spirituelle d'Antoine.
Magnifique extrait. Merci Frédéric Rentière d'être Maxime. Venu sur notre antenne pour nous présenter ce nouveau CD Vox Decello du répertoire Les Chants de Dévotion à Saint-Antoine Abbé, Antoine l'Égyptien. Ça nous a permis de découvrir cette spiritualité qu'on connaît finalement assez peu en Occident ici, et puis d'être entraîné dans ce tourbillon magnifique de ces chants et de ce beau répertoire. Une belle idée de cadeau de Noël, on l'a dit. Voilà, c'est l'occasion aussi dans cette émission de présenter tout au cours de l'Avent des idées de cadeaux qui ont du sens. Et j'invite les auditeurs à aller sur votre site Vox Inrama, mais aussi sur le site de l'association
française des Amis des Antonins, qui d'ailleurs va faire des envois dès le 21, le 22 décembre.
Donc n'hésitez pas à commander ce beau CD Vox Decello, un cadeau de Noël qui a du sens. Merci Frédéric.
Merci Maxime.